Ça fonctionne. J'aimerais que vous puissiez tourner dans le livre de Josué. Hein, Josué, c'est le sixième livre de l'Ancien Testament, tout de suite après Deutéronome. Et on va regarder ensemble un texte qui se trouve dans ce livre, un livre qui est très encourageant. Est-ce que tout le monde a reçu une petite feuillet de notes? Je ne sais pas s'il en reste. Il en reste là-dessus, non? Alors, s'il n'en restait plus, Alain? OK, bon, c'est beau. La prochaine fois, on en fera un petit peu plus. Le titre du message ce matin, c'est « Le courage pour les tâches qui sont difficiles ». Et il faut avoir du courage pour accomplir des tâches qui ne sont pas faciles. Hein? Je pense qu'on a tous vécu des expériences où ça prenait du courage. Vous êtes-vous déjà senti accablé à bout de force pour accomplir des tâches qui vous semblent incroyablement énormes et difficiles? Hein? Ça vous est-il déjà arrivé? Oui? C'est pour dire, si ça ne vous est pas arrivé, vous n'êtes pas dans la bonne gang. Mais ceux à qui c'est arrivé, vous êtes en bonne compagnie. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui peut dire qu'ils n'ont pas vécu des difficultés. Et Josué, lui, connaissait vraiment la crainte qui accompagne une grande responsabilité parce qu'il a été chargé de diriger le peuple de Dieu vers la terre promise, vers Canaan. Et là, pourtant, il a pu, en quelque sorte, faire confiance en Dieu et accomplir sa volonté. Le passage, c'est dans Josué 1, les versets 1 à 9. Et avant de continuer, on va prier Dieu. Oui, Seigneur, le courage souvent est une qualité qui est bien endormie en dedans de nous, ou qu'on repousse, Seigneur, souvent parce que c'est trop facile de se plaindre. C'est facile d'avoir peur puis de se cacher. Pourtant, Seigneur, il y a des hommes dans ta parole qui ont eu ce courage-là. Et cette même force-là, Père, que tu as donnée à ces hommes-là, tu nous la donnes, nous aussi, tes enfants. Alors ce matin, aide-nous à comprendre ce que c'est que d'être courageux, surtout dans les temps difficiles que nous vivons. Et apprends-nous, Seigneur, à obéir à ta sainte volonté, Seigneur. On te demande ces choses dans le précieux nom de Jésus. Dans le texte de ce matin, il y a aussi des écritures, des passages qui sont là à l'appui et sont au tableau, c'est-à-dire Exode 14, verset 13, Josué, chapitre 6, verset 1 à 3 et 2 Timothée 1, 7. C'est des passages qu'on va voir ensemble à mesure qu'on avance dans le message. Vous savez, à un moment donné de notre vie, surtout en vieillissant, je pense qu'on peut témoigner de cela, ceux qui vieillissent. On est tous confrontés à des situations qui peuvent nous faire peur. Peut-être qu'on redoute la mauvaise santé, hein? Cancer, ces choses-là, maladies. Peut-être que c'est des problèmes financiers, la perte d'un ami cher, d'une personne chère. Peut-être l'incertitude sur l'avenir. Hein? Peut-être aussi qu'on a peur de l'échec. Hein? Des fois, on est trop orgueilleux et on a peur de faire un échec ou d'avoir un échec parce que nous nous sentons faibles, insuffisants pour une tâche particulière ou peut-être pour un défi. Quelles que soient nos peurs, quelles que soient nos peurs, on doit apprendre à les affronter comme Dieu le désire, c'est-à-dire avec courage. On est une société qui aime se plaindre, qui aime critiquer, qui se cache au lieu de faire face à la musique, comme on dit. Josué 1, versets 1 à 9, a été écrit il y a longtemps. Mais ces principes concernant le courage sont toujours vrais pour ceux d'entre nous qui vivons au 21e siècle. C'est encore vrai aujourd'hui ce que la parole de Dieu nous dit. Je vais vous donner un peu une définition de qu'est-ce que c'est que la peur puis le courage. La peur, premièrement, c'est une alarme interne qui s'allume en nous d'une certaine façon quand nous sommes confrontés à un danger imminent, quand nous nous sentons menacés ou lorsqu'on se sent impuissant à éviter ou à changer une situation. On a peur. Hein? On a peur. Le courage, par contre, c'est la qualité de l'esprit qui nous permet de faire face au danger ou de faire face à une opposition ou des oppositions, ou à certains défis de la vie avec intrépidité, hein, on fonce, avec calme et avec fermeté. Selon 2 Timothée 1, 7, l'apôtre Paul parle au jeune Timothée. Timothée, c'est un jeune pasteur dans une grande église, l'église d'Éphèse. Et il dit, remarquez bien ceci, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. » Oui, il parle à Timothée, mais il parle à matin aussi, toi qui es son enfant. Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et quand je dis la force, ce n'est pas la force pour se battre, là. C'est une force qui est combinée à l'amour et à la sagesse. Ça veut dire que nous avons ces promesses qui nous permettent de marcher avec courage à travers toutes sortes de défis. Toutes sortes de défis. On va regarder ensemble la situation de Josué. Qu'est-ce qui se passait quand Moïse est mort? Donc, après la mort de Moïse, Dieu donne à Josué la tâche de diriger son peuple vers le pays de la terre promise, comme je l'ai dit, parce que Dieu avait promis cela. Je vais vous conduire dans une terre où coule le lait et le miel. Et bien que ces gens-là avaient été entraînés par Moïse, et qu'ils, qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Ils ont traversé la mer à sec. La pensée de remplacer Moïse puis de prendre toutes les responsabilités pour tout ce peuple-là ont rempli le cœur de Josué de peur et de tremblement. Il a eu peur. Il a eu peur. Et c'est normal. Il avait vu comment le peuple rebelle, c'était un peuple rebelle, un peuple au cou raide, comme on peut lire souvent dans l'Ancien Testament, des non-croyants, il n'y avait pas de foi. Il avait vu, Josué, comment ces gens-là avaient agi dans le passé. Rappelez-vous du veau d'or. Et Josué savait aussi quel grand défi il y aurait à faire face, dont celui de conduire le peuple, des millions, 2 millions d'Israélites en territoire ennemi. Toute une tâche. La terre était remplie de villes fortifiées, de géants, de soldats bien armés et des chars de guerre. Et bien que ces obstacles-là semblaient insurmontables, une montagne, mais Josué se souvient de la promesse, de la façon, c'est-à-dire, dont Dieu a combattu pour son peuple en séparant l'eau et en engloutissant les Égyptiens qu'il suivait, leur char, tout est englouti dans les profondeurs de la mer. Et lorsqu'on tourne dans Exode 14, verset 13, on peut lire ceci. « Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel. » Imaginez-vous, ils sont rendus l'autre bord, là. Puis là, ils voient cette armée-là qui arrive, les Égyptiens. Ils ne s'en viennent pas pour prendre une tasse de café avec eux autres, là. Hein? Ils s'en viennent pour les tuer, pour les ramener, en tout cas. Et là, il dit, regardez ça, la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et on sait ce qui s'est passé. La mer les engloutit. Mais quelle était la base du courage de Josué? Les promesses du Seigneur étaient la base du courage de Josué. Ces promesses-là sont dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre courage en tant que croyant, il vient, c'est-à-dire, de notre relation avec Dieu par l'intermédiaire de son Fils. Et si on veut une relation avec Dieu, bien, il faut lire sa parole. On va y revenir un peu plus en détail tantôt. Oui, nos situations sont différentes de celles de Josué. Les principes, par contre, et les promesses qui sont révélées dans le passage sont vraies, vraies, vraies pour nous aujourd'hui. C'est les mêmes promesses. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué au verset 5? Allez voir, Josué 1, 5. Regardez bien, « Nul ne tiendra devant toi. » Il n'y a personne qui va pouvoir t'affronter ou qui va pouvoir résister. « Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Imaginez-vous, c'est Dieu qui parle à Josué, et c'est Dieu qui te parle un matin. Je te laisserai pas, je te délaisserai pas, je t'abandonnerai pas. Matthieu parlait tantôt de passages qui peuvent nous inciter, nous aider à prier. Mais quand ça va pas bien, là, puis ton courage, là, il est comme en bas de la ligne, là, c'est le fun, ça, lire ça. Dieu promet d'être avec moi. Dieu promet qu'il ne me délaissera pas. Dieu promet qu'il ne m'abandonnera pas. On a cette même assurance-là parce que Dieu vit en nous à travers la présence puissante du Saint-Esprit. Évidemment, il faut être sauvé. Il faut être né de nouveau. Il faut croire que Dieu existe. Il faut croire que Jésus a donné sa vie pour nos péchés et que son sang qui a coulé à la croix est puissant, tout puissant pour nous laver de tous nos péchés, passés, présents et à venir, peu importe le péché que c'est. Et quelles que soient les situations difficiles auxquels nous sommes confrontés, on n'est plus seul, on n'est plus seul. Dieu est avec nous. Ferme tes yeux, puis dis-toi-les 150 fois s'il le faut, mais Dieu est avec toi. Au lieu de regarder aux circonstances qui sont là devant toi, qui arrivent, on devrait regarder vers le Seigneur parce que lui, il est toujours fidèle. Maintenant, c'est sûr que Josué avait des responsabilités. Et on a des responsabilités. Regardez au verset 7 dans Josué 1. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Il dit, Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement, selon quoi? Selon toute la loi de Moïse. La loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ça, c'est le Pentateuque. C'est Moïse qui a écrit la Genèse et l'Exode, hein, le Lévitique, Nombre puis Deutéronome. C'est Moïse qui a écrit ça. Fait qu'il dit, détourne-toi pas de ça, là. Agis fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'est quoi le succès de la réussite? Hein, c'est ça, la parole de Dieu. D'obéir à la parole de Dieu, de la lire, d'être vraiment attaché. Dieu n'a pas donné à Josué un plan pour aller à la guerre puis pour gagner la guerre. C'est pas ça que Dieu a donné comme plan. Son succès à Josué ne viendrait qu'en gardant ses yeux concentrés sur le Seigneur. Et aussi en faisant exactement ce que Dieu a prescrit dans sa parole. Ce n'était pas une tâche à faire avec la force naturelle de l'homme. Ah, je suis fort, je suis correct. Je lis ma Bible tous les jours. Amenez-en des problèmes. Non. Ça ne marche pas comme ça. Mais avec l'obéissance. Ça, c'est une caractéristique. Une caractéristique, excusez-moi. Et aussi avec la force surnaturel de l'Esprit Saint qu'on reçoit à la nouvelle naissance. Dieu nous donne le même plan pour la victoire. Le même plan qu'il a donné à Josué. Puis si cette semaine vous lisez Josué, vous allez voir que Josué en a fait des choses, en a accompli des choses. Il n'y a pas de place pour faire du cherry picking. Vous savez ce que c'est, hein? Choisir des passages. Ça, c'est des passages que je vais croire. Oh, ça, c'est des passages que je vais obéir. Puis eux autres, bien, je vais les mettre de côté. C'est trop dur, ça. Moi, t'as assez. Il n'y a pas de place pour faire du cherry picking dans la Bible. Il faut obéir à tout ce que la parole de Dieu nous dit. Les principes que la parole de Dieu nous enseigne. Et le succès que Dieu promet. Ce n'est pas le succès du monde. Tu ne te promèneras pas en Rolls-Royce. Tu n'auras pas deux, trois maisons et c'était là. Je n'ai rien contre les richesses, ce n'est pas ça que je dis là. Mais ce n'est pas ce genre de succès-là que tu vas avoir. Aux yeux de Dieu, le succès, c'est la vie pieuse d'un croyant. Une vie centrée sur la prière. Un croyant qu'il peut utiliser comme témoin dans le monde, parce que c'est à cela qu'on a été appelé, et un témoin qui est un défi pour les autres croyants. Un défi dans le sens que tu regardes un frère ou une sœur aller et tu te dis, « Ouais, Seigneur, donne-moi de te ressembler à toi, mais quand je vois ce frère-là et cette sœur-là, là, c'est tout un défi dans leur vie chrétienne. C'est beau à voir. Maintenant, c'est quoi la clé? La clé du courage. Tournez au verset 8, dans Josué 1. Dieu dit que ce livre, le livre de la loi, la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Selon tout, encore là, tout, le mot tout est là, tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est à méditer, ça. Un passage comme ça, c'est à méditer. Parce que lorsqu'on médite au quotidien la parole de Dieu, c'est ça la clé pour accomplir avec courage tout ce que Dieu met devant nous. Et il y a 5 éléments que je pense que je les ai écrits. Premièrement, il faut la lire, la parole. Et si je te demande de faire un rapport sur un livre puis que tu ne l'as pas lu, ton rapport ne sera pas grand, il n'y aura pas grand ligne en tout cas. Il faut lire parce qu'il faut qu'on sache ce que Dieu dit dans sa sainte parole. Deuxièmement, mais il faut y croire. Il faut croire à ce qu'on lit. Croire dans toute la parole qui est écrite. Croire dans toutes les promesses. Ensuite de ça, il faut l'absorber, hein, comme une éponge. Ensuite, ça vient dans nos pensées. On l'absorbe dans nos pensées. Donc, ça veut dire qu'on comprend la parole. Et ça veut dire aussi que cette parole-là, c'est elle qui gouverne nos pensées. Ce n'est plus des pensées du monde qu'il y a dans la tête, là. C'est des pensées de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ensuite de ça, il faut l'appliquer. C'est bien beau la lire, c'est bien beau la comprendre, c'est bien beau l'absorber, mais là, il faut que je l'applique. La parole de Dieu doit être appliquée dans ma vie, dans ma façon de vivre. J'ai connu des gens qui se disaient chrétiens, mais quand tu comparais leur vie à ce que la parole dit, ça ne marche pas. Ah oui, on n'est pas parfait, c'est sûr qu'on peut faire des erreurs. Mais il y a des choses qui viennent nous dire, « Wow, ça ne marche pas. Ça ne matche pas avec le caractère d'un enfant de Dieu. » Et enfin, il faut lui obéir. Il faut obéir à cette parole-là. On sait que Dieu a dit, on le sait parce qu'on l'a lu, parce qu'on y croit, parce qu'on l'a absorbé, parce qu'on l'a appliqué. Et on répond à Dieu par une obéissance complète. C'est ça le but de méditer la parole de Dieu. Tu as beau me dire, « Ouais, ben je lis 3 chapitres par jour, c'est correct. » As-tu compris quelque chose? T'es mieux de méditer sur un verset que de me dire que tu as lu toute ta Bible dans un an, mais tu ne comprends rien et tu n'as rien qui a changé dans ta vie. Vous savez, il y a des cours qui se donnent partout dans l'Internet, les diplômes en théologie. Et bien que ces cours-là et ces diplômes-là puissent prétendre nous rendre prospères, rien, absolument rien ne peut se comparer au chemin que Dieu a tracé pour qu'on puisse avoir le succès. Absolument rien. Si on médite sur sa parole à tous les jours pour obéir attentivement à ses instructions, on ne sera jamais considéré comme des gens qui ont réussi selon la norme mondiale. Ça, c'est sûr. Mais le Seigneur est le juge suprême. J'aime mieux plaire au Seigneur que de plaire au monde. Et il est celui devant lequel nous allons nous tenir devant pour rendre compte de notre vie. Je n'aurai pas à rendre compte de ma vie à M. Trudeau, à M. Trump, à M. Poutine. Non, je vais rendre compte à Dieu. Cependant, la commande de méditer la parole jour et nuit, et là vous allez me dire, ouais, ça signifie pas qu'on doit passer des heures chaque matin puis chaque soir dans la parole de Dieu. C'est pas ça que ça veut dire. Le Seigneur peut faire un grand travail dans ta vie si tu vas simplement lui donner 10 à 15 minutes par jour. Mais attention, si tu le fais vraiment avec la joie, ça ne restera pas à 10 et 15 minutes. Ça va peut-être être des fois une heure par jour. Mais au début, pour ne pas faire peur à personne, 10-15 minutes dans la parole de Dieu, méditer, penser, des fois ça se prolonge dans la journée, pendant que je suis prêt à travailler, tu t'apprends à penser à ça. À un moment donné dans ta vie, tu vas dire, « Ouais, j'en ai besoin de plus. J'en ai besoin de plus. » Puis là, tu vas allonger ton temps. Frères et sœurs, en méditant sur la parole de Dieu, on reconnaît qu'on a besoin de son aide parce qu'on n'est pas assez, excusez-moi, intelligent ou assez fort pour diriger nos propres vies. Et en tant que notre Seigneur et Sauveur, Jésus a le droit de nous dire quoi faire. Et si nous le faisons, si on fait ce qu'il dit, il va nous permettre de vivre un succès, le succès, en accord, par contre, avec sa volonté, et de bien planifier pour nous. Dieu, troisièmement, a donné un avertissement à Josué. Et il donne la même chose, ce même avertissement-là, à toi et à moi. Il a dit, il a énoncé, c'est-à-dire catégoriquement, ce que Josué devait faire pour réussir à amener tout ce peuple-là à la terre promise. Et regardez bien le verset 8 en deuxième partie. Agir fidèlement. La fidélité. Agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit dans la sainte parole de Dieu. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. L'obéissance, c'est la chose la plus importante, excusez-moi. Parce que les méthodes de Dieu, des fois, ça ne fait pas de sens. Puis je vais vous amener dans un passage où vraiment ça ne faisait pas de sens. On se trouve dans Josué, chapitre 6, puis on va regarder les versets 3 et 5. Vous vous rappelez des murs de Jéricho. Josué 6, versets 3 à 5. On va lire 3 et 4. Dieu dit à Josué, « Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. » Verset 4. « 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. » Oups, on arrête là. Là, vous en allez vous attaquer à une ville qui est fortifiée. Puis le Seigneur veut que tu joues de la trompette puis que tu fasses du jogging. Même pas du jogging, il faut que tu marches. Mais sans m'avoir été Josué, il aurait dit, « Wow, tu as besoin d'être là. » Je ne sais pas. Mais il me semble que c'est pas guerrier trop, là, ça. Là. Mais regardez bien au verset 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Et là, regardez bien ce qui arrive. La muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Wow! Hein? Il va juste crier. Mais c'est quoi la caractéristique principale de ça? Exactement. L'obéissance. Josué a fait exactement ce que Dieu lui a demandé. S'il n'aurait pas fait ça, il n'aurait pas réussi. Donc, tout comme Josué, on doit faire confiance au Seigneur. On doit lui obéir avec courage, peu importe ce qu'il peut exiger de nous. Il ne nous donnera jamais un calendrier si chargé qu'on n'aura pas le temps de méditer sur sa parole. Moi, si quelqu'un me dirait ça, je dirais, recheck ton affaire. Alors que nous nous concentrons sur lui et qu'on avance dans l'obéissance, on va être suffisant sur tout ce que Dieu nous appelle à faire. Je conclue avec des questions. C'est quoi les craintes dans ta vie? Prends le temps d'y penser. Le message est enregistré quand il va être sur le site, là, notre site web, ECEH.me. Écoute-le. Écoute-moi pas, moi, là, écoute le Seigneur quand il te parle. C'est quoi les craintes dans ta vie? Y a-t-il des passages dans la parole de Dieu qui ont un impact dans la façon dont tu manipules tes peurs? On a vu un tantôt. Josué 1, 1 à 9 devrait être le premier sur ta liste. Est-ce que la méditation quotidienne de la parole de Dieu fait partie de ton quotidien? Est-ce qu'il t'a aidé à obéir au Seigneur? Est-ce que la parole, la méditation de la parole, as-tu vu des choses là-dedans qui t'encouragent à obéir? Enfin, peux-tu faire du temps pour le Seigneur, pour sa parole, dans ton horaire quotidien? Veux-tu du courage? Veux-tu être courageux? On est en guerre contre les puissances du mal, contre le malin. Imaginons-nous pas que toute seule, on va être capable d'y arriver. C'est pour ça que le Seigneur a fondé l'Église. Parce qu'il savait que tout seul, on ne vaut rien. Ah, tu peux te penser bien smart, mais tu ne vaux rien. Regardez bien le verset 9 de Josué 1. C'est comme une répétition, mais Dieu dit, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. » Fortifions-nous, frères et sœurs, dans la sainte parole de Dieu et prenons courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Soyez bénis. Et si tu veux être courageux comme Josué, puis tu ne connais pas encore, tu n'as pas cette relation-là avec Dieu, une relation personnelle. Oh, tu crois à beaucoup de choses, mais tu n'as pas ce lien-là. Demande pardon pour tes fautes. Dieu va te pardonner. Il ne met pas dehors personne. Puis demande-lui de t'aider à aller dans sa parole, de trouver les mots qui sont nécessaires, qui sont écrits dans ta parole, ou peut-être te diriger vers quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Crois au sacrifice parfait de Jésus sur la croix. On vient de fêter, là, Pâques, mais aussi Vendredi Saint, où on a vu notre Seigneur cloué sur une croix, donner sa vie pour toi et moi. Donc, ensuite, marche, obéis. Oh, tu vas tomber, tu vas t'enfarger. Mais l'Église est là pour t'aider. Dieu est là tout le temps. Il va t'accompagner tous les jours de ta vie. Merci, mon Dieu, pour ta sainte parole. Merci, Seigneur, pour ta grâce, ton amour. Que ton nom soit glorifié encore une fois. Que ta parole puisse prendre racine dans nos cœurs. Qu'elle puisse être épongée par notre esprit. Et qu'on puisse t'obéir en toutes choses. En Jésus, on te prie. Amen.